Enraciné et édifié en lui, par Marc Tapernou. Édition 1964. Troisième partie. Marcher en Christ. Point 1. L'obéissance. Les qualités dominantes de la nouvelle nature sont la dépendance et la soumission, et les circonstances par lesquelles nous passons dans ce monde, les difficultés, les épreuves et les tentations de la route sont autant d'occasions où ces qualités sont mises à l'épreuve et peuvent se manifester et s'exercer. Il y a de la bénédiction dans l'épreuve pour celui qui est dépendant et soumis. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations. Jacques 1, verset 2. Nous ne devons pas laisser tomber le mot « commandement » parce que le commandement exprime l'autorité, et que lors même que nous ferions extérieurement toute chose bien, rien n'est bien qui n'est pas fait dans un esprit d'obéissance. L'obéissance chrétienne, c'est une nouvelle vie qui trouve son plaisir à faire la volonté de Christ, en reconnaissant l'entière autorité de Christ sur elle. Nous nous tenons pour morts à tout le reste. Nous sommes vivants à Dieu. Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous ne connaissons Christ qu'autant que nous sommes vivants de sa vie. Or, cette vie est l'obéissance. Celui qui a perçu les premiers rayons du soleil d'en haut n'a qu'un seul désir, marcher toujours plus à sa seule clarté. La tâche la plus difficile du Saint-Esprit est peut-être d'amener le croyant à acquiescer entièrement à la volonté de Dieu. La volonté propre subsiste en chacun de nous, toujours prête à la rébellion. Le remède est dans la résolution délibérée de faire la volonté de Dieu à tout prix, en toute chose, en tout temps. Il s'agit d'avoir, comme règle absolue, de faire la volonté de Dieu sans souffrir aucune exception. C'est une des séductions du cœur que, lorsque nous connaissons parfaitement la volonté de Dieu, nous allions demander avis à quelqu'un qui n'est pas plus spirituel que nous. Sans doute, un esprit plus spirituel peut m'aider à discerner la volonté de Dieu. Mais Dieu a lié la connaissance du sentier qui est selon sa volonté, de son sentier à lui, avec l'état intérieur de l'âme, et il nous fait traverser des circonstances, la vie humaine ici-bas, afin de mettre cet état à l'épreuve, de nous révéler à nous-mêmes quel est cet état et de nous y exercer. Le chrétien doit, par son état spirituel, connaître les voies de Dieu. Le moyen à employer, c'est la parole. On ne peut manifester son amour pour le Seigneur qu'en obéissant à ses commandements. Pourquoi employer de belles expressions pour témoigner son amour envers lui, si l'on marche contrairement à ses pensées, en se laissant diriger par sa propre volonté? Les commandements du Seigneur sont exprimés par sa vie entière, par tout ce qu'il a dit et fait. Il sert de modèle à ceux qui, par la foi, le possèdent comme leur vie. Pour eux, toute sa vie, ses actes, ses paroles font autorité. L'amour pour le Seigneur est le mobile d'action du croyant. Il est alimenté par la connaissance de sa personne, de sa marche, de son dévouement jusqu'à la mort, de ses souffrances. Si le croyant ne s'occupe pas du Seigneur, s'il ne vit pas de lui, il ne peut marcher sur ses traces. La grande bénédiction du croyant consiste à connaître toujours mieux la personne du Seigneur. Cette connaissance ne peut se réaliser que dans une vie d'obéissance. Seule l'obéissance permet de réaliser toutes les bénédictions propres à la position dans laquelle la grâce nous a placés. Aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Celui qui garde ses commandements demeure dans son amour, participe à sa joie comme à sa paix. Rappelons-nous que, si nous sommes dans une entière dépendance du Seigneur, la tentation ne nous atteindra pas du tout. L'épreuve peut survenir, mais, comme Jésus, nous pouvons dire de celle-ci, « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Jean 18, verset 11. Si nous sommes près de Dieu, toute épreuve devient une occasion précieuse de manifester une obéissance plus grande, sinon c'est une tentation de sortir du chemin de la dépendance. La libre volonté n'est que l'esclavage du diable. Ne pas avoir d'autre motif que la volonté de notre Père, quelle simplification dans nos circonstances. Si nous pensions à ne jamais rien faire que parce que c'est la volonté expresse de Dieu, combien de choses disparaîtraient immédiatement de notre vie. Nous ne lutterions pas sans cesse contre ceci ou cela, mais nous serions gardés dans la conviction paisible que la grâce de Dieu a pourvu à tout et que nous n'avons pas à faire un pas sans que son amour y ait pourvu d'avance. Nous trouvons dans la parole la règle de la conduite du chrétien. Elle est très simple, très catégorique et parfaitement satisfaisante pour le cœur qui désire réellement faire la volonté de Dieu. Quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, verset 17. Si nous sommes assez près de Dieu, nous ne serons pas embarrassés pour connaître sa volonté. Là où il y a du discernement spirituel, les choses deviennent aussi simples et claires que la lumière du jour. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14. Là où est la crainte du Seigneur, il y aura l'intelligence de sa parole et de sa pensée. Mais la parole de Dieu ne sera pas simple si l'on ne se soumet pas à lui. Le signe caractéristique de ceux qui aiment le Seigneur est l'obéissance. Lorsque nous jouissons d'une relation intime avec lui, notre amour se manifeste en ce que nous cherchons à connaître les désirs de son cœur. Si Christ nous est précieux, nous serons attentifs à sa parole. Aimez-vous la volonté de Dieu? Il nous faut arriver bien des fois à la place où nous sommes prêts à abandonner les choses que nous pensons être bonnes et précieuses, afin que sa volonté s'accomplisse. Quand l'esprit est pur, libre de ce mélange de sentiments de l'âme, nous reconnaîtrons la volonté de Dieu et nous trouverons que c'est en elle seule que notre cœur peut se réjouir. Nous ne verserons même plus une larme par sympathie pour la chair. Oui, l'action de la croix pénètre profondément et il importe qu'elle soit réelle à l'égard de l'âme. L'activité de la nature divine en nous se manifeste toujours dans l'obéissance. Ce qui n'est pas obéissance n'est pas Christ. Reconnaître la Seigneurie de Christ est un des grands secrets de notre vie chrétienne. C'est mettre de côté notre propre volonté pour n'obéir qu'à celle du Maître. Chaque pas dans le chemin de l'obéissance est accompagné de bénédictions réelles, parce que l'obéissance est le fruit de la foi, et que la foi nous associe avec Dieu et nous introduit dans une communion vivante avec lui. Seigneur, délivre-nous de cette légèreté d'esprit qui consiste à ne pas prendre le temps et la peine de considérer en toute chose ta volonté. Le critère du croyant dans toute sa marche doit être ce qui satisfait le cœur de Christ, et non pas quel mal y a-t-il en ceci ou en cela. Comme Jésus était entièrement dépendant du Père pour toutes ses paroles et ses œuvres, de même le croyant ne peut rien faire de lui-même. Nous nous tourmentons souvent pour des choses que Dieu ne nous demande pas du tout. Notre état d'âme joue un grand rôle. Ce sont les débonnaires qu'il fera marcher dans la justice et auxquels il enseignera sa voie. Si nous sommes humbles et méfiants de nous-mêmes, si nous comptons sur Dieu en simplicité de cœur, il nous dirigera sûrement. Mais c'est un manque fatal de droiture que de demander conseil à Dieu lorsque nous avons un parti pris et que notre volonté est en jeu. C'est une grande chose de pouvoir dire au diable et au monde, non des lèvres seulement, mais en vérité et par toute notre vie, je suis parfaitement satisfait de la volonté de Dieu. Point 2. L'amour. L'amour n'est ni aveugle ni faible. Seulement, au contraire de notre cœur naturel, il ne se plaît jamais à découvrir le mal et à le publier. Il ne le suppose pas. Quand il le trouve sur son chemin, il en est affligé, et, au lieu de l'exposer à la malignité publique, il en cherche le remède. Mais il ne le traite jamais avec indifférence. Il en supporte les conséquences qu'il atteigne personnellement, sans se plaindre ni se venger. En aucun cas il ne s'y associe. L'amour sert, l'amour s'humilie, prend volontairement la position la plus vile selon l'orgueil de l'homme, pour servir et y trouver ses délices. Christ a agi par amour. Christ a voulu servir. Christ a voulu prendre la place la plus basse, lui qui pouvait s'humilier. Et nous ? Étant le déploiement de la nature divine en nous, et ce qui maintient le cœur dans la communion de Dieu lui-même, l'amour est le lien de la perfection, le vrai moyen de sainteté. Le cœur est, par lui, retenu loin de la chair et de ses pensées, dans la pure lumière de la présence de Dieu. L'amour fait surmonter les difficultés, les persécutions, la frayeur que l'ennemi cherche à produire dans nos cœurs. Si nous sommes occupés de Dieu, heureux en lui, le poids des afflictions ne se fait pas sentir. La force de Dieu est dans le cœur et nos peines ne sont qu'une légère tribulation d'un moment. La récompense d'aimer, c'est d'aimer encore davantage. Celui qui aime s'enrichit de ce qu'il donne. Dieu respecte l'amour qu'il obtient, car l'amour de ses créatures est son plus beau titre de gloire. Le choix de la seule chose nécessaire est aussi le fruit de notre amour pour Christ. Parce que nous l'aimons, rien ne vaut pour nous autant que sa présence, et nous choisissons sa présence. C'est à lui de décider quelles sont les autres choses qu'il choisit de nous donner. Plus encore que notre service, il désire notre amour. Si nous aimons Christ véritablement, nous discernerons ce qui lui plaît, sa volonté, ce qui à ses yeux a le plus d'importance, et cet amour doit nous aider à toujours choisir le meilleur, à renoncer aux biens secondaires ou à les placer au second plan. L'amour est la conformité à la nature de Dieu, l'expression vivante de ce que Dieu est, la manifestation d'une participation à sa nature. On agit, on sent, d'après la nature de Dieu. L'amour a sa source au-dedans de celui en qui il agit. Sa force est indépendante des objets dont il s'occupe. Et c'est ainsi qu'il peut agir là où les circonstances pourraient produire dans le cœur de l'homme l'irritation ou la jalousie. Quel objet difforme qu'un chrétien égoïste ! Il est une contradiction constante, un mensonge vivant. Point 3. La vigilance. Pierre n'est pas le seul pour qui le coq a dû chanter deux fois. Il est d'un grand profit pour notre âme que nous ayons le jugement de Dieu présent à nos pensées
et que le sentiment de l'immuable majesté de Dieu soit maintenu dans notre conscience par ce moyen. La conscience que nous devrons tous être manifestés devant le tribunal de Christ engage le cœur du croyant accepté de Dieu à chercher à plaire au Seigneur à tous égards. Celui qui marche maintenant dans la lumière, celui dont la conscience réfléchit cette lumière, ne la craindra pas au jour où elle paraîtra dans la gloire. Affranchi de toute crainte, dans la parfaite lumière, et avec la consolation de l'amour parfait, et, en même temps, avec le sentiment de l'autorité et du gouvernement divin pleinement démontré dans l'âme, tout est jugé par l'âme elle-même, comme Dieu le juge, et en communion avec lui. Cela est extrêmement précieux. Prenons garde dans les choses ordinaires de la vie, au premier pas qui nous éloignerait de la sainteté intérieure et de cette séparation de cœur pour lui qui nous donne son secret,
savoir la lumière d'en haut sur tout ce qui nous entoure. Car le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent.
Psaume 25, verset 14. Dieu ne nous demande d'être fidèles qu'un jour à la fois. Nous voyons par là le prix que nous devons attacher à chacune de nos journées. Nous sommes facilement portés à considérer la vie comme un tout et à négliger le court espace d'un jour. Nous oublions que les jours font les années, que la valeur d'un jour dépend de son influence sur tout l'ensemble de la vie. Un jour perdu est un anneau brisé de la chaîne et en demande souvent plus d'un pour être réparé. Il déteint sur le suivant et le rend plus difficile à passer. Il peut même rendre inutile le travail de mois et d'années. Point 4. L'humilité. Dieu hait l'orgueil par-dessus tout, parce que l'orgueil donne à l'homme la place qui appartient à celui qui est dans les cieux, exalté au-dessus de tout. La vraie humilité ne consiste pas tellement à penser du mal de nous-mêmes qu'à n'y pas penser du tout. Je suis trop mauvais pour mériter qu'on pense à moi. Ce dont j'ai besoin, c'est de m'oublier moi-même et de regarder à Dieu qui est digne de toutes mes pensées. Que Dieu nous accorde d'être n'importe quoi ou de n'être rien du tout, afin que le Seigneur Jésus-Christ soit tout. L'humilité qui découle du pardon de nos péchés sera toujours plus profonde que celle qui découle de la découverte de ses péchés. La première nous met en rapport avec Dieu, la seconde a affaire avec le moi. Pour être vraiment humble, il faut marcher avec Dieu, dans l'intelligence et la puissance de la relation où il nous a placés. Il nous a fait ses enfants, et pourvu que nous marchions comme tels, nous serons humbles. Nous ne devons pas nous comparer aux autres pour nous justifier. Considérons plutôt notre parfait modèle, Christ. Alors, au lieu de nous justifier, nous nous condamnerons.
Rien n'indique un état de cœur plus déplorable, et rien ne peut être un plus grand obstacle à la bénédiction
qu'un esprit de censure et de critique. S'occuper de soi d'une manière quelconque est une chose des plus pernicieuses, c'est le coup de mort de la communion. Tout ce qui tente à placer le moi devant l'âme doit être jugé et rejeté d'une manière décisive, car la faiblesse et la stérilité en sont la conséquence. C'est une grande chose que nous soyons réduits à rien. Et si nous ne savons pas comment n'être rien, il faut que Dieu nous y amène. Un homme humble n'a pas besoin d'être humilié. Point 5. Le service. La grande affaire pour nous est d'être près de Christ et d'y demeurer constamment, car c'est là que l'âme est gardée en paix dans le sentiment profond de son amour. Ainsi, notre service découle du fait que nous demeurons auprès de lui, et il en porte l'empreinte. Se livrer, c'est la cession volontaire et définitive de l'être tout entier, esprit, âme et corps, du moi à Christ, à qui il appartient de droit parce qu'il l'a créé et racheté. Désormais, Christ a le droit d'employer et de contrôler cet être qui lui appartient entièrement. Ce n'est pas pour être à lui, mais parce que nous sommes à lui que nous lui livrons notre vie. Sur la croix, au prix de son sang, Jésus a acquis le titre de propriété sur notre vie. Elle est sienne par droit d'achat. Lui avez-vous jamais livré ce qui lui appartient? Christ a le droit de prendre de force ce qui est à lui, car il est le Seigneur. Mais il préfère nous contraindre par amour. Il nous sollicite de cette manière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La consécration s'étend à tous les membres de notre corps, tout est compris, rien n'est omis. Comprenons bien que nous ne devons faire aucune réserve en ce qui concerne ce don de nous-mêmes. La plus petite réserve serait considérée par Dieu comme un acte de rébellion. Si Christ doit être notre maître, il doit être le maître de tout. La seule puissance pour la délivrance du péché ou pour le vrai service, c'est Christ. C'est l'amour pour Jésus qui nous pousse à l'œuvre. Il ne saurait y avoir d'autre motif. Toute activité extérieure, qui n'est pas le fruit de la vie intérieure, tend à nous faire agir sans Christ et à lui substituer le moi. J'ai peur d'une grande activité sans grande communion. À moins que l'activité ne se renouvelle dans la communion avec le Seigneur, toute sincère qu'elle est, elle dégénérera en routine et deviendra même dangereuse, car, par son moyen, l'âme s'éloigne de Dieu sans le savoir. Le temps viendra bientôt où nous dirons de tout ce qui, dans nos vies et nos voies, n'a pas été Christ, tout cela fut du temps perdu. Puisse l'amour et l'approbation du Seigneur, et non les choses qui vont disparaître, être les motifs qui nous gouvernent. Heureux qui s'oublie et dont le regard, attiré par Christ, est détourné de sa propre contemplation. Heureux qui pense aux autres et qui aime et qui sert, qui sort de soi en portant du fruit. Heureux qui se donne pour sauver, pour qui sert, tout est joie. Nous ne sommes pas souples entre les mains du Seigneur. Il doit donc briser en nous la volonté propre et ses manifestations, afin de nous amener à faire une chose parce qu'il la désire et non parce que nous l'aimons. Il veut nous amener à la place où il n'a plus qu'un désir à exprimer pour que nous y répondions instantanément. C'est là l'esprit du serviteur. Mais un tel esprit ne se produira naturellement en aucun de nous. Il se manifestera seulement lorsque notre âme, le siège de notre énergie, de notre volonté, de nos sentiments naturels, aura connu le toucher de la croix. Tout vrai serviteur de Dieu doit connaître, à un moment donné, cette expérience. Il faut que soit produite en nous une véritable crainte de nous-mêmes. Nous redouterons de faire quelque chose par nous-mêmes, mais lorsque nous en arrivons à vivre notre vie dans l'esprit et par l'esprit, bien que nous employions encore les facultés de notre âme comme nos forces physiques, elles sont désormais les servantes de l'esprit, et lorsque nous en sommes là, Dieu peut réellement nous employer. Un jour doit arriver dans notre vie, aussi précis que le jour de notre conversion, où nous abandonnons tout droit sur nous-mêmes pour nous soumettre à la souveraineté absolue de Jésus-Christ. Les conséquences pratiques peuvent être suscitées par Dieu pour éprouver la réalité de notre consécration, mais qu'il en soit ainsi ou non, il doit y avoir un jour où, sans réserve, nous lui abandonnons tout, nous-mêmes, nos familles, nos biens, nos intérêts et notre temps. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est désormais à lui, pour être entièrement à sa disposition. À partir de ce jour, nous ne sommes plus nos propres maîtres, mais uniquement ses administrateurs. Tant que la souveraineté de Jésus-Christ n'est pas établie dans nos cœurs, l'Esprit ne peut agir efficacement en nous. Il ne peut réellement diriger nos vies tant que nous n'en avons pas remis le contrôle entre ses mains. Si nous ne lui donnons pas l'autorité absolue dans nos vies, il peut y être présent, mais il ne peut y être puissant. La puissance de l'Esprit est paralysée. Lorsqu'il approuva, à Béthanie, l'action de Marie, le Seigneur Jésus établit le principe fondamental de tout service, c'est que nous lui donnions à lui tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes. Et si c'était là tout ce qu'il nous demande, cela lui suffirait. Il n'est pas question de savoir tout d'abord si les pauvres ont été secourus ou non. La première question est, le Seigneur a-t-il été satisfait? Celui qui ne commence pas par se mettre à l'école de la sagesse ne sera jamais un vrai serviteur. Dieu, dans sa grâce, trace à chacun de nous le chemin qu'il doit suivre, donnant à chacun une sphère d'action et des devoirs à remplir, et nous sommes tenus de connaître quelle est notre vocation et quels sont les devoirs qui se rattachent à cette vocation, afin que, par la grâce qui nous est donnée chaque jour, nous puissions travailler efficacement à la gloire de Dieu. Il importe peu quelle est notre mesure, pourvu qu'elle nous ait été départie de Dieu. Nous pouvons avoir 5 talents, ou n'en avoir reçu qu'un seul. Mais si nous faisons valoir ce seul talent, les yeux arrêtés sur notre maître, nous entendrons aussi certainement de sa part ses paroles « Cela va bien » que si nous avions fait valoir les 5 talents. Que de fois, lorsque Dieu nous confie une activité pour son service, nous avons la manière d'agir et les décisions de l'homme selon la chair, et notre travail reste stérile. Il est important de comprendre que dans le ministère, tout, absolument tout, doit être de Dieu et rien de l'homme. Les œuvres expriment la foi et la nourrissent. Le vrai service ne consiste pas dans l'activité qui s'y déploie, mais dans la profonde soumission à la volonté du Seigneur, dont cette activité est l'expression. Oh, que les croyants cessent de regarder à eux-mêmes pour se plaindre de leur faiblesse, comme si Dieu les appelait à une œuvre pour laquelle il ne les a pas préparés, qu'ils acceptent joyeusement et avec foi le fait merveilleux qu'en les unissant à Christ, Dieu se charge de leur développement spirituel et des fruits qui en découlent. Alors, toute paresse, toute hésitation malsaine disparaîtront. Sous l'influence bénie de la foi en la fidélité de celui par qui ils sont en Christ, ils se lèveront pour accomplir leur glorieuse destinée. Prenons garde de ne pas nous laisser aller à l'influence desséchante d'un fatalisme pernicieux qui, avec un certain air de vérité, est complètement faux, en tant qu'il renie la responsabilité de l'homme et paralyse toute énergie divine pour la cause de Christ. Nous devons nous rappeler que celui qui, dans ses conseils éternels, a décrété la fin, est aussi celui qui a déterminé les moyens, et si, par incrédulité, ou si, influencé par une vérité partielle, nous nous croisons les bras et négligeons les moyens, il nous mettra de côté et fera accomplir son œuvre par d'autres. Il agira, mais nous perdrons l'honneur, le privilège et la bénédiction d'être ses instruments. Ce n'est que par une mortification complète du moi que les forces merveilleuses que Dieu nous a dispensées pour le servir, nos dons, nos talents, tout en nous,
peut lui être entièrement consacré.
Point 6. Le témoignage. Se dire chrétien, c'est affirmer qu'on a dépouillé le vieil homme et revêtu le nouveau, c'est dire que Christ est notre vie. Mais dire est une chose, vivre en est une autre. Vivre en chrétien, c'est exprimer Christ, prouver ce nouvel homme en le montrant à l'œuvre dans un bienheureux renouvellement, à l'image de celui vers lequel les regards du fidèle sont tournés. L'opprobre de Christ est un trésor pour le croyant fidèle, car c'est le sceau attestant que nous lui appartenons. Quiconque croit en Jésus est appelé à laisser couler les fleuves bienfaisants dont il est le canal, en faveur de tous ceux qui l'entourent. Le chrétien doit se considérer comme le canal des grâces diversifiées de Christ, en faveur d'un monde pauvre et misérable. Et plus il s'aimera libéralement, plus aussi il recevra libéralement. Tel disperse et augmente encore, et tel retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que disette. Proverbe 11, verset 24. Le chrétien est ainsi placé dans une position où, à la fois, il jouit des privilèges les plus doux et où il est sous la responsabilité la plus solennelle. Il est appelé à être un témoin constant de la grâce de celui en qui il croit et à manifester cette grâce incessamment. Or, mieux il comprendra ses privilèges, mieux aussi il s'acquittera de sa responsabilité. Plus il se nourrira habituellement de Christ, plus son regard sera arrêté sur Jésus, plus aussi son cœur sera occupé de la personne adorable du Sauveur. Et sa vie et son caractère rendront un témoignage vrai et non équivoque à la grâce qui lui a été révélée et qu'il goûte. Point 7. Jusqu'à lui. C'est beaucoup que de ne jamais perdre de vue le but céleste, de ne jamais avoir le cœur partagé, de ne penser qu'à une chose, d'agir et de penser toujours selon l'énergie positive qu'opère le Saint-Esprit dans le nouvel homme en le dirigeant vers ce seul et céleste but. Une fois que nous sommes fils de Dieu, la vie du Fils de Dieu comme homme ici-bas devient notre règle de vie. Soyez imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Il n'y a pas de limites à notre développement spirituel, sinon celles que nous établissons nous-mêmes par notre résistance et notre incrédulité. La vie chrétienne n'est pas caractérisée seulement par certaines qualités subjectives qui découlent de Christ, mais par le fait qu'elle a Christ lui-même pour but et pour objet du cœur et de la pensée, dans tout ce qu'elle fait à tous égards. Christ domine personnellement et est présent au cœur de toute chose. Tout ce qui, en nous brisant, nous délivre de nos propres voies et nous amène dans celle du Seigneur, nous est salutaire. Tout ce qui a pour effet de nous faire apprécier Christ, aussi bien à la fin qu'au commencement du voyage, un Christ connu comme la portion dont nos âmes se nourrissent, comme nous l'avons connu pour le pardon de nos péchés, tout ce qui produit de tels fruits nous est bon. On parle de sacrifices à faire. Ce n'est pas un grand sacrifice d'abandonner des ordures. Si nos yeux étaient assez fixés sur Christ pour que ces choses prennent un tel caractère, nous n'aurions pas de peine à les abandonner. Le caractère des choses dépend de l'objet que le cœur poursuit. Pour courir, on jette les poids qui alourdissent. Tout ce qui m'occupait naguère est entrave et perte pour moi. Il ne vaut pas la peine de m'y arrêter, ce sont des ordures. Si, ayant quitté les choses du monde, je pense que j'ai fait un grand sacrifice, cela prouve que j'estime encore le monde, tandis que je ne puis trouver qu'il y ait un sacrifice quelconque à quitter des ordures. Au contraire, je suis débarrassé, c'est la liberté. Ce qui me possède, c'est l'amour de la justice, c'est la contemplation de la gloire de Jésus à la droite de Dieu. Cela délivre le cœur de toute entrave. Aucune épreuve ne peut atteindre celui qui a Christ pour son tout. Il peut avoir perdu telle chose ou telle autre, mais s'il a Christ, il possède ce qu'il ne peut perdre. Lorsque nos yeux ont été ouverts sur l'excellence de notre Seigneur, rien n'est trop bon pour lui. Le secret d'un progrès réel est l'attachement personnel à Christ lui-même. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux sur sa valeur à lui, sur ce dont il est digne. La perfection actuelle, c'est la condition d'un homme qui réalise par l'Esprit cette vérité qu'il est ressuscité avec Christ et glorifié en lui dans le ciel, et qu'il sera parfait tel que lui. La perfection n'est pas un état que nous atteignons ici-bas. Non que je sois déjà parvenu à la perfection. Philippiens 3, verset 12.